êtes là pour ça. Et qui c'est beaucoup trop. Juste une fois de trop. Et ils seront pour vous, nous deviendrons loups. Notre lait deviendra du fait. Nous deviendrons loups. Une nuit de lune est d'enfer.
Je refuse de me donner mes boursouflures comme d'authentiques gloires. Et je ris de mes anciennes imaginations puériles. Non, nous n'avons jamais été Amazone du roi de Dahomey, ni prince de Ghana avec 800 chameaux, ni docteur à Tombouctou, Askia le Grand étant roi, ni architecte à Djéné, ni Madis, ni guerrier. Nous ne nous sentons pas sous l'aisselle de la démangeaison de ceux qui tinrent jadis la lance. Et puisque j'ai juré de n'en rien sceller de notre histoire, moi qui n'admire rien tant que le mouton broutant son ombre d'après-midi, je veux avouer que nous fûmes de tout temps d'assez paîtres laveurs de vaisselle, des cireurs de chaussures sans envergure, mettons les choses au mieux, d'assez consciencieux sorciers, et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui d'endurance à la chicotte. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négrerie, que nous sommes un fumier ambulant hideusement prometteur de cannes tendres et de coton soyeux, et l'on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. Nous, vomissures de négriers, nous, vénerie de calebards, pourquoi se boucher les oreilles, nous, saoulés à crever de roulis, de risées, de brumes humées, pardon, tourbillon partenaire. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer. Les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricatements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Rien ne peut nous insurger jamais vers quelque noble aventure désespérée. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries. Je défie le craniomètre, homosoum, etc. Et qu'ils servent et trahissent et meurent. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'était écrit dans la forme de leur bassin. Et moi. Moi qui chantais le point dur, il faut savoir jusqu'où je poussais la lâcheté. Un soir, dans un tramway en face de moi, un nègre. C'était un nègre grand comme un pongo qui essayait de se faire tout petit sur un banc de tramway. Il essayait d'abandonner sur ce banc crasseux de tramway ses jambes gigantesques et ses mains tremblantes de boxeur affamé. Et tout l'avait laissé, le laissait. Son nez qui semblait une péninsule en dérade et sa négritude même qui se décolorait sous l'action d'une inlassable mégie. Et le mégissier était la misère. Un gros oreillard subi, dont les coups de griffe sur ce visage s'étaient cicatrisés en îlots scabieux. Ou plutôt, c'était un ouvrier infatigable, la misère, travaillant à quelques cartouches hideux. On voyait très bien comment le pouce industrieux et malveillant avait modelé le front en bosse, percé le nez de deux tunnels parallèles et inquiétants, allongé la démesure de la lippe, et par un chef-d'œuvre caricatural, raboté, poli, verni la plus minuscule mignonne petite oreille de la création. C'était un nègre déguindé, sans rythme ni mesure. Un nègre dont les yeux roulaient une lassitude sanguinolente. Un nègre sans pudeur et ses orteils ricanaient de façon assez puante au fond de la tanière entrebâillée de ses souliers. La misère, on ne pouvait pas dire, s'était donné un mal fou pour l'achever. Elle avait creusé l'orbite, l'avait fardé d'un fard de poussière et de châssis mêlés. Elle avait tendu l'orbite, l'avait fardé d'un fard de poussière et de châssis mêlés, pardon. Elle avait tendu l'espace vide entre l'accrochement solide des mâchoires et les pommettes d'une vieille joue d'Ekati. Elle avait planté dessus les petits pieux luisants d'une barbe de plusieurs jours. Elle avait affolé le cœur, voûté le dos.
c'était Tagada Jones, c'est ça?
Le bienvenue, on est là pour ça.
Bienvenue, on est là pour ça. Donc ce soir, équipe réduite avec Ben, bonsoir.
Bonsoir,
et
avec
Thomas.
Thomas.
Bonsoir. Et oui, car, oui, on peut l'annoncer,
oui.
Nikki, Nicole est nouvellement maman depuis samedi d'un petit Anatole.
Félicitations, Nikki.
Félicitations, c'est pour ça qu'elle viendra pas nous parler de rap ce soir. enfin bon, félicitations et tout. Et donc, tu peux me dire le titre quand même de Tagada
Jones? Ça s'appelle Le Drapeau. En fait, c'est un remix de, donc d'un morceau de Tagada Jones qui était sur leur avant-dernier album, parce qu'ils viennent juste de sortir un album qui s'appelait Le Fou aux Poudres.
Ouais.
Qui était marrant. Et c'est un remix par Shane Kouf. C'est assez difficile à prononcer. Et en fait, donc Tagada Jones, c'est un groupe de punk hardcore assez vieux, qui a une quinzaine d'années maintenant. Et Shenko, c'est un groupe de, je sais plus quelle origine, qui a bon, pas mal de temps résidé à Saint-Nazaire, et qui font de l'électro-punk assez marrant, avec notamment une bonne Riot Girl, comme on dit, qui est au chant, mais là, donc on n'entend pas, puisque c'est un remix de Tagada Jones.
Ah oui, le mec qui chante, c'est le mec de Tagada Jones.
Voilà, c'est le mec de Tagada Jones, c'est les riffs de Tagada Jones qu'ils ont mixé à Donf, notamment ils sont deux à manipuler les machines et les guitares. Et voilà, donc je recommande les deux albums de Shane Kouf, en même temps que cet album de Tagada Jones, qui a ma foi des trucs un peu chiants par moment, faut quand même l'admettre. Genre les cargos, un truc sur l'écologie, c'est un peu simpliste, mais ils ont deux, trois morceaux qui valent bien le coup, puis leur petit refrain, on chie sur la couleur de vos drapeaux, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien de le rappeler quand même. Hein, c'est... Et juste avant, je vous ai très mal lu.
Mais qui, c'était bien.
Non, je ne suis pas un bon lecteur, je sais. Faut que j'arrête d'ailleurs.
J'arrête de lire,
je ferai plus de voix off, je ferai plus rien dans ma vie. Et donc le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, œuvre culte, s'il en est, écrit première édition en 1939, si je ne m'abuse, qui a été réédité plusieurs fois après, en 47 notamment. Ça, c'est l'édition en fait de 47. Le texte de 47, qu'il avait légèrement remanié, qui avait été notamment très découvert par André Breton à l'époque. Qui avait été édité et qui a été réédité en fait chez Présence Africaine, une petite édition poésique, une édition toute ma foi fort jolie.
Oui, c'est tout.
Très bien, machin. Surtout, il y a quand même des beaux efforts de mise en page du texte. C'est pas évident de mettre en page ça, et là, ça marche plutôt bien. Et avec un petit texte de Aimé Césaire après, en guise de manifeste littéraire, un texte qu'il écrivait à Breton, et la réponse d'André Breton, ah, c'est en guise de manifeste littéraire. Qui est pas mal, voilà, une espèce d'échange poétique assez chouette. Et puis ça fait toujours du bien de relire ce texte un peu fondateur et fondamental de la négritude.
Nikki nous en avait parlé un petit peu, enfin elle avait évoqué Frantz Fanon, autre écrivain, je sais pas si c'est de la négritude, en tout cas écrivain antillais, qui avait beaucoup écrit aussi sur ça, et donc elle avait évoqué ça. Ce titre-là aussi.
Alors, ce qui est assez chouette, c'est que moi, je n'oserais pas me lancer dans des analyses d'Aimé Césaire. Je n'en aurais pas la capacité intellectuelle et rigueur poétique. Mais ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'il l'écrit en fait quand il est en France, quand il est à Paris. Et du coup, il y a toujours un aller-retour entre ses îles d'origine, l'histoire de l'esclavage, etc., et sa propre posture maintenant en tant qu'immigré. C'est pour ça que je voulais vous lire ce petit passage où il raconte quand même, il parle de ça, de cette histoire, en même temps il ramène ça à ce que lui vit au quotidien dans le tramway, et c'est surtout d'une virtuosité littéraire qui est assez incroyable. Alors si pour ceux qui n'ont pas 500 milliards de mots dans leur vocabulaire, je vous conseille d'avoir un dictionnaire avec vous, parce que moi il y a plein de trucs que je savais pas. J'ai appris beaucoup de choses aussi en herbe au niveau terminologique. Et voilà, c'est merveilleux. Je vais juste vous lire un tout petit bout de ce qu'il y a derrière en fait, qui est un extrait aussi et que je trouve très très chouette. J'ai le temps, Thomas, de toute façon on est tous les deux, on a rien à foutre. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, car que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite. Et ça, c'est rien que ça, déjà, si c'est pour la glace. Voilà. Merveilleux. Donc, petit bouquin que vous pouvez, pas cher en plus, que vous pouvez trouver partout. Voilà.
Et donc, tu voulais évoquer aussi la mémoire de... Non, pardon. Tu voulais évoquer aussi Harmony Korine, dont le Dietrich nous a régalé d'un petit, une petite rétrospective.
De ses trois réalisations. Il faut savoir qu'Harmony Korine, donc, cinéaste indépendant, qui avait commencé très jeune, puisqu'il avait fait son premier film déjà remarqué par son excellence qui s'appelait Gumo. Il l'avait fait, il avait juste 24 ans.
Ah ouais, mais ouais, mais il avait écrit les scénarios pour...
Et en plus, il écrit les scénarios pour Larry Clark, notamment les Kids et
Ken Park.
Et Ken Park, voilà.
Et Bully, peut-être aussi.
Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr pour Bully. En tout cas, c'est sur Ken Park et Kids.
Voilà, et donc, il a travaillé, donc il a fait Gumo, qui était une œuvre acclamée pour son originalité.
C'est vrai que c'est assez c'est étrange comme film.
C'est vachement original, il y a vraiment des bons frics américains. Il raconte beaucoup de choses aussi sur le.
C'est étonnant, c'est comment le film est fait aussi. Ouais. C'est une espèce de, il y a pas d'histoire, hein, c'est une suite de scènes avec des personnages
voilà.
qui reviennent, mais il y a pas vraiment.
Il y a un côté très comme ça, très très onirique dans le.
C'est
façon...
contemplatif parfois.
Voilà, il prend tout le temps des gens quand même, des personnages, des acteurs assez improbables, notamment un petit enfant qui a une figure et une forme du crâne improbable dans Gumo. Je ne sais pas
ouais.
si tu te rappelles.
Non.
Voilà, qui était très chouette. Et donc là, il y a eu Gumo, il y a eu ensuite Julian Donkey Boy, qui était donc un film qu'il avait fait dans le cadre du Dogme, le Dogme 95.
Oui, on se rappelle, c'était une suite de préceptes, donc édictés par en particulier Lars von Trier, mais
et
d'autres
puis,
aussi,
et,
Thomas Vinterberg.
Tout à fait.
Donc qui. Lars von Trier donc avait fait Les Idiots, Thomas Vinterberg avait fait Festen. Il y en a eu d'autres après.
Ouais, il y en a eu d'autres. Il y a eu en fait deux séries de dogmes en fait. Il y a eu après ils sont un peu.
Ah ouais.
Ouais.
L'idée c'était de revenir à une forme du cinéma épurée de tout artifice en gros. Hein.
Exactement
ça,
en fait. Le principe c'était de tourner en vidéo, bon pour éviter les grosses équipes, aucune musique rajoutée au montage. Donc s'il y avait de la musique, il fallait qu'elle apparaisse un moment. Donc c'était assez marrant aussi parce qu'avec ces contraintes, donc on voit que ça, il jouait avec cette contrainte-là. Très peu d'écriture de base en fait, une grande liberté d'improvisation aux acteurs, des acteurs choisis, pas forcément des acteurs professionnels, toujours avec un rapport assez politique aussi. Et voilà, enfin une suite de dogmes. C'était, ça partait d'un principe surtout esthétique comme ça, cette épuration du système de tournage et pour laisser vraiment le libre champ au cinéma et voilà. Et donc Julian Donkey Boy qui a été tourné donc en vidéo avec Werner Herzog qui joue un père complètement faux. Et j'ai perdu son nom, je suis désolé, je viens de perdre, c'est Evan Brenner je crois, le garçon qui jouait Spud dans Trainspotting notamment, qui a joué dans d'autres films mais qui est resté en fait à tourner un peu dans le cercle de cinéma indépendant.
Et puis l'actrice aussi qui est très connue maintenant, je sais plus comment elle s'appelle, mais
oui.
Sa Perlie Popette, qui a joué aussi chez Lars von Trier d'ailleurs, qui a joué dans Dogville. Zut alors. Bon, on retrouvera.
On est désolé, on est un peu à l'arrache.
On n'est pas très en forme.
sa dernière réalisation, en fait, qui date de 2006, mais qu'en fait, qui a été sortie que maintenant, à la fin de l'année 2008, en fait, qui passe que maintenant aussi à Poitiers. En grande partie d'ailleurs, faut savoir que Harmony Korine galère pas mal à produire ses films aux États-Unis. Il est produit notamment, le dernier a été produit en grande partie par la Fondation Agnès B. Des productions internationales pour rassembler un peu d'argent qu'il lui faut pour faire le film. Et Mr. Lonely, donc une histoire, je peux pas vraiment raconter l'histoire si de façon assez simple. C'est tout simplement une histoire de sosie. On suit le parcours, notamment surtout d'un sosie de Michael Jackson, donc qui nous vaut quelques scènes absolument incroyables. Et qui cherche sa place, qui voilà, c'est pas ça galère un peu en ce moment. Hein, le sosie de Michael Jackson, ça marche pas super bien. Et donc, il rencontre une sosie de Marilyn, qui vit avec un sosie de Charlie Chaplin, et qui ont une fille qui est une sosie de Shirley Temple, et qui ont décidé de fonder une grande communauté de sosies pour fonder le plus grand spectacle du monde. Voilà, donc ça c'est le début vraiment de l'histoire et donc tout son parcours jusqu'à cette communauté. Vraiment comment lui s'intègre dans une communauté qu'une communauté de sosies. Donc qui se revendique uniquement de personnages célèbres, donc Lincoln,
on peut citer Madonna, je crois.
Madonna, il y a le pape. Très bien le pape, hein, je vous conseille le pape. Et James Dean, enfin voilà, il y a des trucs aussi, abracadabra, le petit chapeau en rouge, enfin je, et d'autres encore plus étonnants les uns que les autres. Et ils décident de fonder leur communauté pour créer le plus grand spectacle du monde, puisque finalement comme ils sont les sosies de Jean, finalement. Ouais. Comme ils jouent chacun des plus grands personnages de l'histoire du spectacle ou de la politique, ils vont forcément faire le plus grand spectacle du monde. Mmh. Et en fait, toute l'histoire est basée là-dessus. Comment cette communauté s'organise, comment les égos de chacun transparaissent dans leur dans ce qu'ils ont à représenter, comment ils sont eux, ils sont quoi, ils sont ce qu'ils jouent. Et du coup, ils sont ce qu'ils jouent, et en plus, ils doivent préparer sur scène un spectacle qu'ils vont jouer à jouer quelqu'un qu'ils ne sont pas vraiment. Je vous ai perdu là.
Ouais.
Normalement, je vous ai perdu. Et en parallèle, une histoire complètement abracadabrante de miracles, avec encore Werner Herzog qui joue un prêtre avec une histoire de bonne sœur que je ne vous raconterai pas puisque je vais vous laisser tout le
bénéfice. Parce que le film passe encore, oui.
Et le film passe encore là, cette semaine, donc je vous conseille largement d'aller le voir. Ce qui est très, très intéressant dans le film, c'est qu'il y a toujours une virtuosité cinématographique, notamment le premier plan, qui est vraiment un chef-d'œuvre, avec toujours un choix musical très étonnant. Ça mélange du FX Twin avec du Chopin, oui. Enfin, c'est très très large, son éclectisme musical. Et très très bien choisi, très bien placé, une bande-son assez chouette, et vraiment une virtuosité du cadre et des déplacements des acteurs dans son cadre, qui est vraiment très beau. Et le premier plan est une petite scène sur une petite moto avec une musique un peu surf rock des années 60 qui est vraiment d'une beauté incroyable. Genre, rien que pour ce plan déjà, il raconte beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est que du coup à quel moment ces gens justement, ils jouent, ils ne jouent pas, ils ont des rôles. Alors ça paraît un peu bateau de le raconter comme ça, mais comme c'est très bien incarné dans des très bons acteurs,
Mettre Denis Lavant en Charlie Chaplin.
Mettre Denis Lavant, c'est alors lui, il a des scènes vraiment. Et comme il y a une rigueur aussi formelle par instant, c'est-à-dire que des fois ça se barre vraiment en sucette dans la façon dont il compose ses trucs. Et évidemment, il y a une grande rigueur avec des plans fixes sur des, notamment un plan très chouette où Denis Lavant est en train de répéter son texte. Et en fait, il répète pas un texte, il répète sa façon d'être Charlie Chaplin. Et on ne sait pas ce qu'il répète en fait. Est-ce qu'il répète la façon dont Charlie Chaplin doit faire son texte, ou est-ce qu'il répète la façon lui qu'il a d'être Charlie Chaplin. Et tout le plan se fiche dans cette ambiguïté là, et c'est assez incroyable. Alors du coup, il y a les relations amoureuses, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et voilà, je pense que je vais pas trop en dire non plus, mais je vous conseille fortement d'aller le voir. Et je vous conseille aussi, si jamais vous avez l'occasion, de tomber sur Julian Donkey Boy. C'est très impressionnant aussi, notamment sur la prestation des acteurs également, sur tout l'enjeu du succès qui est développé dans plein de familles américaines. En fait, voilà, le personnage principal, donc Julian, est un peu simple.
Il est schizophrène, c'est un truc comme ça.
Schizophrène, il est très simple d'esprit, surtout. En fait, c'est surtout ça qu'il calcule pas vraiment bien ce qui se passe. Et voilà, et son père est un peu un raté, qui a des tendances un peu bizarroïdes aussi, hein, notamment fumer des cigarettes ou des masques à oxygène, enfin un truc tout à fait bizarre. Et il veut absolument que son autre fils, qui lui est plutôt bien taqué, machin, tout ça, devienne un grand lutteur. Il fait de la lutte. Et voilà, il y a tout un espèce d'enjeu de succès comme ça, avec notamment une naissance, un accouchement, enfin bref, je vous passe les détails, mais toute cette petite relation de famille, en fait, ça rejoint aussi très bien le Mr. Lonely, quoi. À quel moment chacun a des rôles assignés, ou s'en donne, ou s'envoie donner par d'autres. Et c'est ça qui est assez important, c'est que du coup le rôle qu'on a, ou la place que chaque individu trouve par rapport aux autres, finalement, est-ce qu'à un moment on a le choix de les prendre, ou est-ce qu'on se les voit assigner, ou est-ce qu'on est assigné par qui, par les autres, ou alors par entre guillemets l'histoire. Et ce qui est très bien, c'est qu'il a poussé ça jusqu'au bout dans Mr. Lonely, puisqu'en fait les gens se font assigner des rôles par l'histoire, puisqu'ils représentent des gens importants dans l'histoire, on va dire médiatique. Mais ils ont aussi des rôles en tant qu'individu dans la petite communauté. Il crée. Et notamment, voilà, des histoires de couple, de d'amour, de...
Qui va faire la vaisselle.
Voilà. Alors, ça va, alors c'est pas, c'est assez marrant, c'est que du coup, il y a des trucs aussi qui reviennent très pratiques. Voilà. Donc, chacun a les rôles qu'ils veulent bien, qu'ils prennent, et voilà. Et quel moment ils les assument ou pas, ils assument ou pas leur relation avec les autres. Et ça, c'est, ce qui est, c'est vraiment poussé à aller, un truc vraiment très très chouette. Voilà. Oh, c'est pas mal, c'est un peu fort.
Programmation très punk ce soir avec Ben.
Alors, petite remarque. Alors, c'est une programmation punk, mais avec mélange électronique. C'est ça qui est très intéressant.
Ah, d'accord.
Parce que du coup, en fait,
ça
là...
sentait pas trop là. C'est...
Mais oui, mais en fait, on s'en rend pas bien compte. Mais quand même, le rythme assez incroyable qui est donné. Je sais pas, il faudrait calculer le tempo, je pense, mais à mon avis, ton métronome, il ferait un blip-blip assez impressionnant. Et ce petit groupe, en fait, c'était le groupe Lard, un groupe qui avait monté Dialogue
lard.
Biafra.
En français, Lard. Bon,
lard.
Comme du
lard. Comme du lard.
Comme du lard de cochon.
Ouais, comme lard, le cochon. Ça, alors, je sais même pas. C'est... Bref. Et qu'on avait donc un groupe qui avait monté Dialogue Biafra, donc le chanteur des. Le bien connu chanteur des Dead Kennedys. Et voilà, qui avait monté ce groupe, je crois, dans fin des années 80. Cet album date de 90, si je n'abusais ça même. 90, qui s'appelle The Last Temptation of Raid. Et donc le groupe était constitué donc de Dialogue Biafra qui fait les voix et il se dit aussi des programmeurs. Donc
ouais,
voilà, donc il y a un mec qui fait de la guitare et la programmation, un autre qui fait la basse et la programmation, Jeff Ward qui fait les batteries et puis la voix, et lui qui fait les voix et la déprogrammation. Donc je trouve ça
c'est-à-dire
assez
qu'il fout le bordel là où les autres essaient de faire
quelque chose. Je pense que c'était un peu ça. Et surtout, ce qui était bien, c'est que je trouve que ce petit morceau, qui est pas l'album est pas toujours très tient pas toutes ses promesses malgré ce premier morceau absolument incroyable. Mais c'était un bon moyen c'était un bon groupe qui au début des années 90, tout début commençait à mélanger du punk bien hardcore, à la limite du métal, et qui mélangeait avec de l'électronique mais assez balbutiement. Et voilà, donc voilà un peu un truc qui a inspiré, je pense, pas mal de trucs d'électropunk qu'on a vu naître à ce moment-là et qui était déjà existant avant aussi, mais ça, c'en est une bonne figure en tout cas. Voilà, je vous conseille l'art de l'Est, peut-être chez Neufraid, ça fait toujours du bien aux oreilles, et puis surtout ça envoie le bousin, comme on dit.
Ouais, bon, là-dessus, moi je voulais évoquer quand même un petit peu le dernier festival Angoulême, donc qui vient de s'achever dimanche. Signaler, bon, j'y suis allé, mais j'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Je suis quand même tombé sur des choses un petit peu intéressantes. Alors, forcément, en particulier dans la bulle qui s'appelle Nouveau Monde et qui regroupe maintenant tous les labels indépendants, que ce soit alors le plus gros, ça doit être maintenant l'association, donc la maison d'édition qui a maintenant qui va sur ses 20 ans et qui doit être le plus gros indépendant maintenant, puis avec plein d'autres petites. Ce qui était intéressant dans cette bulle cette année, c'est que ça commençait par des gros indépendants et ça finissait tout au bout par les fanzines. Alors il faut savoir que la bulle fanzine depuis 3-4 ans voyage, c'est-à-dire qu'une année elle est au trou du cul d'Angoulême, l'autre année elle est au deuxième trou du cul qu'on connaissait pas. On sentait qu'il n'y avait pas une volonté vraiment du festival de donner de l'importance au fanzina, bien que ce soit une part importante de la création, la part la plus dynamique de la création en bande dessinée et la plus originale aussi, quoi. L'an dernier, on se rappelle peut-être que le prix du fanzine a été décerné à Turkey Comics, qui est édité par un label qui s'appelle Uchi Kuchi. Et en arrivant sur scène, ils avaient lu un petit texte un petit peu virulent, justement, en disant qu'ils en avaient marre que les fanzines soient toujours relégués dans un trou du cul. C'était pas leur mot, mais bon. Et ils ont eu quand même gain de cause cette année, bien que le nombre de stands fanzines baisse quand même, il faut savoir, d'année en année. Et donc cette année, la bulle Nouveau Monde était très uniforme, très 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 chouette, parce que bon, effectivement, il y avait plein de labels. Bon, peut-être que ça manquait encore un petit peu d'animation et de déco, je sais pas, mais en tout cas, il n'y avait pas les traditionnels vendeurs de figurines et de produits dérivés il y a quelques 4-5 ans, la bulle New York était divisée entre les fanzines d'un côté, de l'autre côté, les vendeurs de booze, quoi. Enfin, les vendeurs de produits dérivés.
J'achetais des t-shirts là-bas, des fois. Je suis désolé, mais je l'ai fait, j'avoue.
Non, mais c'est pas forcément mauvais, mais il y a une espèce d'antinomie entre mettre des gens qui sont là pour la création et des gens qui sont là pour le commerce, quoi. En tout cas. Moi j'ai découvert notamment il y a toujours un peu on a déjà parlé ici des éditions Misma qui sont très bien, des éditions Le Nouveau Journal de JDT Marinette qui sont très bien aussi.
Ils sont toujours là, ils font toujours des trucs très bien.
Ils font toujours des trucs là cette année il y avait un nouveau truc, un petit une un fanzine qui est déjà à son sixième numéro, qui vient de Lyon. Alors, il y a quand même déjà pas mal d'auteurs qui viennent de Lyon, très intéressant. Notamment, on se rappelle une des dernières expos qui a eu lieu à la Fanzinothèque, c'était une expo de Yvan Brun, qui est lyonnais lui-même. Il y a des gens comme Lucas Mété, qui édite maintenant, qui a fait un petit bouquin à l'association, qui vient de Lyon aussi. C'est une bande de... Ils doivent être... Je sais pas si ils sont encore étudiants ou certains le sont encore. En tout cas, c'est des gens qui, je crois, étaient à l'école Émile Kohl, qui est une école d'animation, de dessin animé en particulier... À Lyon et j'ai trouvé leur fanzine. Alors c'est un fanzine, bon, c'est un format assez classique, un 4 avec une couverture sérigraphiée, un peu comme ça se fait dans ce milieu là et l'intérieur en photocopie, et ma foi, il y avait des trucs plutôt rigolos. C'est assez épais, on sent qu'il y a encore des styles qui vont s'affirmer, il y a des choses aussi très affirmées. L'ensemble est plutôt drôle. Ça, j'apprécie. Moi, j'aime bien quand ça me fait marrer. Non, mais ce que j'aime bien, moi, dans les fanzines, si tu veux, c'est trouver un esprit, quoi. C'est-à-dire que des fois, t'as des trucs qui sont super bien fichus, mais qui tombent un peu des mains, quoi. Enfin, où tu sens que c'est des mecs qui se sont mis ensemble pour faire un truc, mais il n'y a pas vraiment de volonté derrière, quoi, tu vois. Parce que c'est ça qui était notable, justement, avec Misma, en particulier le nouveau journal de JT Marinette. C'était des gens, ils sont une petite équipe, mais on sent qu'il y a un truc, quoi. Il y a un esprit, tu les reconnais, quoi. C'est un peu, peut-être t'as ça, peut-être dans le petit label de musique, tu vois, je sais pas, les petits groupes, les choses comme ça, forcément. Et alors que des fois, t'as des choses qui sont très bien faites, mais... Moi, je préfère trouver un petit fanzine un peu moche, c'est photocopié, pas forcément bien dessiné, mais où je sens que les mecs, ils se marrent, tu vois. Ils font un truc ensemble parce que, tu vois, ils aiment bien se retrouver, faire la fête, et puis, enfin, pas sans ça, mais c'est souvent aussi du travail, hein. Faut voir, quoi. C'est pas mal de boulot, mais on sent que les mecs, ils ont du plaisir à faire ça et qu'ils essaient de te le transmettre d'une certaine manière, même si c'est encore mal fichu. Là, c'est un peu le cas d'Arbitraire. Il y a des choses qui sont très bien fichues, quand même, hein, dans l'ensemble. Mais, globalement, on sent un peu la bande de potes, et, ça, j'aime bien. Quoi. Donc,
c'est comment le fanzine, tu as dit, parce que tu
Arbitraire.
Dis, Arbitraire.
Ils font aussi des petits bouquins, mais la revue est quand même assez classe, quoi. Les petits bouquins sont encore un petit peu, c'est pareil, ça flotte encore un peu, mais la revue est vraiment bien. Bon, je vous la conseille, je pense que vous la trouverez à la Fanzinothèque ou à la librairie du Feu Rouge. Je ne vais pas trop en dire plus. Moi, j'ai un auteur que j'ai bien aimé qui s'appelle Pianina, je crois, qui fait des petites BD avec des animaux. Un petit peu débile, mais assez chouette, assez bien, ouais, bien dessiné et tout. Il y a deux mecs qui font un roman, une espèce de feuilleton en bande dessinée où chacun dessine une page. Bon, c'est un procédé maintenant qu'on voit depuis longtemps, mais bon, c'est assez marrant. Bon, voilà.
Très bien.
À noter aussi cette année la présence dans le festival de la bande dessinée, enfin dans la bulle, en particulier la bulle Nouveau Monde, des Cahiers Dessinés, donc qui sont une collection des éditions Buchet-Chastel. C'est plutôt un éditeur un peu universitaire, hein, globalement. Les Cahiers Dessinés, donc ça existe depuis peut-être maintenant 10 ans. C'est animé par un dessinateur qui s'appelle Frédéric Pajac, qui est assez connu maintenant, qui fait des gros bouquins. On se rappelle peut-être chez Opuf notamment, il a fait des bouquins, il avait fait un bouquin notamment sur, je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur d'Ulysse, l'auteur irlandais.
James Joyce.
C'est souvent très emprunt de littérature. Lui, c'est pas un dessinateur de bande dessinée, c'est vraiment un dessinateur où il fait des choses souvent assez littéraires avec du dessin, des très beaux dessins qui peuvent rappeler de la gravure. On se rappelle aussi qu'il avait animé, c'est dommage qu'Hélène soit pas là, mais il avait animé un magazine qui s'appelait L'imbécile de Paris, qui a duré quand même un petit temps, qui était assez chouette aussi, basé sur le dessin. Les Cahiers Dessinés, c'est le nom leur va très bien, puisque c'est ils sortent des bouquins de dessin. Donc il y a une revue déjà qui s'appelle Les Cahiers Dessinés, qui sort de manière assez irrégulière. Il doit y en avoir un par an, même pas, tu vois. Et là, dans un des derniers, il y a toujours des découvertes, quoi. Bon, il y avait 100p, mais bon, ça, on ne présente plus, mais il y a toujours des niches, des gens, des fois proches de l'art brut, des fois des artistes pas très connus, ou alors des artistes connus, mais dont ils montrent les dessins, qui ne sont pas forcément connus pour leurs dessins, mais dont ils montrent les dessins. Et ils ont édité Topor, GB... là, ils viennent d'éditer un bouquin de Stéphane Mazurier qui est l'historien notamment des éditions du Square, de Harakiri et de Charlie Hebdo en particulier, qui sort un bouquin sur Charlie Hebdo, sur l'histoire du Charlie Hebdo, la première mouture. Donc la couverture montre, on en a parlé ici, hein, mais on sait qu'il y a une espèce de bataille maintenant entre la nouvelle équipe de Charlie Hebdo qui ne veut pas reconnaître l'apport du professeur Choron donc dans Charlie Hebdo. Là, Stéphane Mazurier, et les Cahiers dessinés, ils y vont carrément. Ils montrent en couverture Cavana et Choron en train de s'embrasser. Donc c'est vraiment, il y a une volonté un petit peu justement de dire quelque chose là-dedans.
Et ça se présente comment alors, ces Cahiers dessinés?
C'est des grands bouquins, souvent c'est des grands bouquins avec une couverture, c'est assez chouette, c'est du beau papier, ça doit être un Rive Tradition, un truc comme ça, c'est assez beau, c'est assez sobre. La présentation, c'est souvent blanc, la couleur du papier, elle est un peu crème, et des fois il y a une jaquette, des fois pas, enfin c'est assez varié. Il y a un bouquin d'Hervé Di Rosa aussi, je sais pas si tu te rappelles, les frères Di Rosa qui faisaient des peintures et des sculptures. Enfin bon, je vous conseille ça. Allez-y dans toutes les bonnes librairies. Normalement, il y a les Cahiers dessinés. Et puis alors une nouveauté là que j'ai ramené là. Tu vois, c'est un nouveau gratuit de bande dessinée qui s'appelle Modern Spleen,
qui a quand même la classe pour un gratuit.
Ah ouais, c'est super chouette. C'est tiré en rotatif sans doute. Enfin, c'est un aspect journal quoi, un peu comme.
Oui,
ces formats, comme on dit, tabloïd, ça le format de Libé quoi, en gros,
format
de Libé. C'est un collectif d'Angoulême qui sort ça, je crois, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ils sont angoumoisins, hein, je crois. Et ils publient là dans ce numéro en particulier plein d'auteurs, alors de plein de pays différents, alors que j'énumère un petit peu. Une italienne de Bologne, une d'Angoulême, pas italienne mais une française d'Angoulême, un mec de New York, une allemande, un finlandais. Il y a un sujet là, il y a un article sur la bande dessinée finlandaise qui est un petit peu court pour le coup, surtout que la bande dessinée finlandaise, on a déjà été un peu décrite ailleurs quoi, on connaissait déjà un petit peu tout ça, mais bon, c'est quand même pas mal de faire cet effort là, de mettre un peu de rédactionnel. Et la double page centrale est consacrée à une association, là en l'occurrence une association qui s'occupe des gens du voyage. Je crois que les membres du collectif ont fait un atelier avec des gitans, ou je sais pas comment on dit, des gitans, des manouches, des tziganes,
des roms,
un atelier dessin.
Et gens du voyage, comment on dit,
des gens du voyage. Et globalement, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est super classe quand même. C'est des grandes pages de dessin, des fois en couleur, des fois en noir et blanc. Il y a une variété de styles qui est assez intéressante.
C'est vachement bien imprimé.
C'est très bien imprimé.
Et moi, je me demande comment ils
arrivent à faire que ça soit un gratuit.
Ouais, c'est ça, parce que pour moi, l'idée du gratuit, c'est justement de réduire absolument les coûts.
Ouais, donc de bourrer ça de pub.
Soit ce qu'on voit beaucoup dans le journalisme, ce qu'on dit que c'est des trucs journalistiques, pauvres, gratuits, un peu pourris, qui sont bourrés de pub.
Alors là,
ils sont mauvais.
Ouais, là, on voit.
Où les mecs sont payés au lance-pierre. Mais là, du coup, c'est des trucs de qualité, très bien imprimés. Enfin, du coup, je.
Ouais, c'est plutôt. Alors, bon, on voit quand même qu'ils ont beaucoup de partenaires, hein, à la fois institutionnels et à la fois privés. Mais en même temps, les partenaires, ça prend pas énormément de place. C'est vraiment toute la place est donnée à la création. Et ça,
c'est
quand
des
même
grandes pages en plus, et notamment donc il y a des BD vraiment avec des gros carrés, ou des dessins en pleine page quoi, qui prennent vraiment une page.
Bon, alors là aussi, ils sont en train de, j'ai discuté un petit peu avec eux, ils sont en train de trouver des solutions de diffusion en fait, hein, c'est toujours là que ça pêche un peu quand on est un petit éditeur, c'est la diffusion, la distribution, c'est un petit peu difficile. Bon là, j'en ai pris un paquet, donc il va y en avoir un petit peu au Dietrich, un petit peu au Feu Rouge, mais peut-être que vous les verrez peut-être ailleurs à l'avenir, peut-être, je sais pas, au Confort, peut-être, voilà. Et en tout cas, on leur souhaite longue vie. Ils font aussi des petits bouquins qui étaient
pareils. C'est le premier numéro,
c'est le premier numéro.
D'accord.
C'est pas mal.
Franchement,
la couverture en pâte à modeler.
C'est une BD en pâte à modeler
imprimée.
Et c'est assez, avec une couleur assez classe. C'est très bon. Moi, je vais continuer à parler de Modern Spleen en même temps que je fais des signes à Thomas. Vous ne voyez pas les signes qu'on se fait en fait. Alors Thomas, à un moment, on essayait de développer des stratégies de communication en fait, pour savoir comment on pouvait s'envoyer des informations sans parler.
Ouais.
Parce que, alors du coup, vous ne voyez pas toutes les mimiques qu'on fait avec notre corps pour.
On fait des grimaces aussi.
Des grimaces, des trucs. Alors là, c'est bien celle-là, moi, que je veux, hein, celle-là. Donc, non, c'est bon. Voilà. Donc là, on, par exemple, on n'a pas pu s'empêcher là parce que du coup, c'était un peu compliqué. On peut des trucs compliqués aussi ici. Mais là, je pense que Thomas, tu peux y aller. Hein, tu peux envoyer.
On peut balancer la musique alors.
Ouais.
Parce que c'était de ça dont il était.
Il était question au début, mais bon, après, on peut digresser pendant des heures sur des choses absolument insipides. Désolé, bon, on coupe ça.
Ça fait bizarre, ça endort là, après tous les deux morceaux
voilà.
Punk.
Oui, mais c'était pour
je laisse un peu en fond, c'est tellement beau.
Ouais, c'est tellement beau. Ah, donc c'est l'aria de la sonate en ré majeur, extraite des concertos bandes bourgeois de Bach.
D'accord.
Et c'est beau. Et moi, ce morceau, en fait, me rappelle... je m'en rappelle beaucoup de choses, ça donne presque, c'est tellement beau que ça donne presque envie d'être croyant. Enfin, moi, je sais pas.
Ouais.
Et ça me rappelle aussi, hein, moi j'avais beaucoup aimé ce morceau dans une très belle scène de, qu'on peut aimer ou pas le film, hein, c'est pas la problématique. Une très belle scène de Seven de David Fincher, où il y a un long travelling en fait, où lui il va chercher des informations dans l'immense bibliothèque de la ville où il habite. Et les gardiens lui font une petite blague en lui disant. Où il se fout de sa gueule parce que du coup Morgan Freeman arrive et leur dit mais vous c'est incroyable vous êtes dans un puits de culture et de science et de savoir et vous passez vos journées à boire du whisky et à jouer au poker. Enfin ces quatre gardiens ils sont en train de jouer au poker. Et un des gardiens lui fait une petite remarque, il dit mais tu sais nous aussi on sait avoir la classe et être distingué. Et il envoie ça, fond les ballons dans toute la bibliothèque et donc du coup il y a une espèce de résonance incroyable dans cette immense bibliothèque. Et il y a un long travelling où on suit Morgan Freeman passer au travers des bouquins avec cette musique là. Et je trouve ça très chouette et ça raconte beaucoup de choses et c'est surtout moi j'aime beaucoup l'idée que ça soit les petits prolos gardes qui envoient ça et qui renvoient un peu dans la gueule à Morgan Freeman le fait que c'est pas parce qu'on n'est pas flic.
T'as pas commencé à nous frémer la tête.
Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas flic et qu'on s'occupe de trucs super importants tout ça machin qu'on peut pas écouter des choses merveilleuses. Voilà. C'était ma petite remarque. Après, on
D'accord.
pourra discuter du film plus tard.
J'ai oublié de préciser un truc sur Modern Spleen. Là, c'est que c'est un journal gratuit de bande dessinée internationale. En anglais, ça fait Free International Comics Paper. Parce que, en fait, la revue est complètement bilingue. Tout est soit en anglais et traduit en français, soit en français et traduit en anglais. Mmh. Donc, ils ont une vocation.
C'est de la BD en VO.
International.
En VO sous-titré.
Voilà.
Et c'est plutôt chouette.
Plutôt chouette.
D'ailleurs, ça doit être un peu problématique, parce que du coup, c'est vrai que les traductions sont posées en bas des pages et tout. Enfin, c'est...
Ça dépend, des fois c'est sous les cases.
Des fois c'est posé sous les cases et tout, de façon toujours assez sobre et tout. Sous-titrage de bande dessinée. Très bien.
Un petit récap avant de passer à autre chose. Donc on a parlé, donc Ben nous a lu avec brio un passage
de Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, qui est ressorti au courant de l'année dernière, si je ne m'abuse, mai 2008, le dépôt légal. Donc voilà, la présence africaine dans la collection Poésie de présence africaine.
Là-dessus, on a balancé Tagada Jones remixé par
Shane Koof. Alors Shane Koof, ça s'écrit S-H-A-N-E, plus loin C-O-U-G-H. Voilà,
Koff, ouais, tousser, ça veut dire tousser.
Ouais, mais j'arrive pas à le prononcer.
Comment tu dis
Shane Koff.
Ah, okay.
Le drapeau, un très beau morceau qui est sur l'album, l'édition un peu collector limitée du Feu aux Poudres.
Et on a évoqué donc la mémoire. Non, bah non, il est pas mort, il n'a pas la mémoire, mais on a évoqué donc Harmony Korine.
Il est tout jeune, il fait plein de trucs.
Harmony Korine, dont le dernier film, Mr. Lonely, est encore. Oui, à l'affiche Odietrich.
Vous pouvez encore le voir Odietrich.
Mais plus Gummo ni Julian Donkey Boy, donc ils sont passés
la semaine dernière. Mais vous pouvez toujours les trouver.
Là-dessus, Ben nous a envoyé Lord. Comme du lard, quoi.
Comme du lard.
Voilà, donc un groupe de Jello Biafra.
Voilà, avec le morceau Fork Boy.
Fork Boy. Moi j'ai évoqué donc la mémoire, mais non pas la mémoire, mais le. J'ai évoqué le Festival d'Angoulême qui est fini, mais qui recommencera, enfin qui est fini, enfin cette année, quoi. Avec notamment le fanzine Arbitraire que je vous conseille, avec les éditions Les Cahiers Dessinés, qu'on trouve déjà en librairie, notamment normalement. J'ai évoqué aussi Modern Spleen, donc gratuit de bande dessinée internationale. Et là-dessus, Ben nous a envoyé, je sais pas pourquoi, il nous a envoyé les concertos brandebourgeois, donc l'aria voilà. Du concerto brandebourgeois.
Non, l'aria de la sonate en ré majeur BWV 1068, qui est le troisième temps.
Tu peux pas le faire en sous-autant, ça ferait un petit peu, comment il s'appelle Jean-Christophe Averti.
Merci, on a un invité spécial qui nous donne des conseils sur la musique.
Ça ferait Jean-Christophe, vas-y, refais.
Voilà.
C'était la
sonate en ré majeur de BWV 1068, le troisième mouvement, l'aria, qui est merveilleux. Et voilà, et puis pour finir, on va vous juste pour rappeler qu'en fait samedi il y a un petit concert où je pense qu'il y en a d'autres gens qui vont en parler sur Pulsar, parce que dans d'autres émissions certainement, un petit groupe plutôt sympa qui passe samedi soir au Confort Modem qui s'appelle Off on Off. Et en fait, qui est un petit groupe ma foi fort sympathique, une espèce de musique expérimentale punk rocké ou et l'inverse est vrai, punk rocké expérimental, je ne sais trop rien. En tout cas, une rencontre entre un des guitaristes de VX, le bassiste du groupe Zoo, que je ne connais pas très bien, dont je vais pas en parler, et puis le batteur du projet qui s'appelait The Thing avec Mats Gustafsson, dont on avait écouté un très bon morceau avec Sonic Youth d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Et voilà, c'est un très très bon projet qu'ils ont fait tous les trois, et qui est bourré d'énergie, très chouette, d'expérimentation comme des fous, et dont ils ont fait un très bon album qui s'appelle The Clash, dont on va écouter d'ailleurs le morceau Clash, qui est le dernier morceau de cet album-là. Voilà.
À la semaine prochaine, on est là pour ça sur Radio Pulsar, et
à bientôt.
Portez-vous bien.